Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, dimanche 17 avril 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir, le programme commencera par le journaux, suivi le focus de la semaine, puis aujourd'hui dans l'histoire, la nouvelle de l'Indonésie. Et puis pour conclure notre information aujourd'hui, écoutez donc le rappel des titres de l'actualité. N'oubliez pas, nous avons les rubriques hebdomadaires qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission avec la rubrique distraction, le magazine musical indonésien. Je laisse parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici les journaux aujourd'hui, dimanche 17 avril 2016. L'Indonésie et la Tunisie ont établi des relations diplomatiques pendant plus de 50 ans. Pour renforcer ces relations, en particulier dans le domaine de la culture, l'ambassade tunisienne a organisé un concert de musique d'une chanteuse tunisienne, Leila Hejaj, tenue récemment à Suhan Hall de Energy Building SCBD Jakarta. Ce concert a été assisté par des diplomates, des représentants du ministère de l'Indonésie, des humanistes, des médias et d'autres invités. Dans une rencontre exclusive avec l'ambassadeur de la Tunisie avant l'événement, l'ambassadeur Mourad Belhassen a déclaré que le but du spectacle de musique tunisien était d'introduire la culture et la musique de la Tunisie à l'Indonésie. L'ambassadeur Mourad Belhassen a déclaré que Leila Hejaj était le musicien arabe classique qui est célèbre non seulement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. En raison de ce concert de musique, l'ambassadeur Mourad Belhassen espère que les gens indonésiens peuvent plus connaître la culture de la nation tunisienne, en particulier dans le domaine de la musique. Les performances musicales de la Tunisie organisées pour la première fois avec le plein appui du consul honoraire tunisien à Yogyakarta, M. Mutarianto. Le directeur de l'Association indonésienne de l'industrie des artisanats folkloriques, ou APICRI, Amir Panzuri à Yogyakarta, a encouragé les artisans locaux de diversifier ou élargir les marchés d'exportation en ligne avec le ralentissement économique global. Selon lui, le grand potentiel des hommes d'affaires des artisanats à Yogyakarta qui sont capables de développer les valeurs ethniques dans le les produits sont en fait les valeurs ajoutées avant de continuer à se développer dans d'autres marchés, autres les États-Unis et l'Europe. Cependant, le marché de la communication en Amérique et en Europe devrait être maintenu toujours, parce que ce marché était prospectif pour les entrepreneurs indonésiens. Selon Amir, les marchés d'exportation à tonnes sont un défi pour les artisanats pour les artisans de continuer à améliorer et à augmenter la qualité de leur production, en plus d'améliorer la stratégie de marketing. Le Conseil de coordination des investissements BKPM concentre l'intérêt de l'investissement dans trois secteurs prioritaires des Pays-Bas, tels que le secteur maritime, l'agriculture et les infrastructures. La collecte de données sur des secteurs potentiels est faite avant la visite du président Joko Widodo à l'Europe du 17 au 23 avril 2016. Le chef de BKPM, Frankie Sibarani, dans un communiqué de presse samedi, a déclaré que la réalisation de l'investissement des Pays-Bas à l'Indonésie était le plus grand par rapport aux autres pays européens. Selon les données de BKPM pour la période 2010-2015, la réalisation d'investissements néerlandais a atteint 70 trillions roupias. La valeur de la réalisation des Pays-Bas dépasse du Royaume-Uni, avec la valeur de réalisation qui atteint 31 trillions roupias. Il souhaite que la visite du président peut encourager la réalisation des investissements, en particulier dans les trois secteurs prioritaires. Commandement militaire régional 033 Wirapratama a initié des activités d'explorer les îles périphériques dans les îles de Riau, sous la forme de l'expédition Gurindam Sarti 2016. Le commandant militaire d'ANREM 033 WP, le général de brigade Matsuni, le samedi a déclaré que cette expédition sera effectuée pendant un mois. L'emplacement des îles de Riau attrayant est stratégique parce que les 19 îles d'entre eux sont les îles extérieures qui bordent directement avec les pays voisins tels que la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Le but de cette expédition, entre autres, pour maintenir et améliorer la capacité des soldats à enregistrer les îles habitées ou non habitées, enregistrer tous les potentiels des ressources naturelles et le potentiel des catastrophes naturelles et améliorer le bien-être de la communauté. L'Indonésie pourrait devenir un pionnier dans le développement d'une centrale électrique négative de carbone car il a déjà commencé à prouver, a déclaré l'homme d'affaires Hasim Jojo Hadikusumo au 5e symposium de l'Asie du Sud-Est avec le thème Bien-être humain et environnemental en Asie du Sud-Est, qui a eu lieu à l'Université d'Oxford en Angleterre. Lors de la conférence de Paris sur le changement climatique COP21 en décembre dernier, Hasim a également dit qu'il y avait maintenant un modèle pour produire de l'énergie de façon rentable, tout en réduisant les émissions de carbone et la préservation des forêts. Le modèle mentionné par Hasim, qui soutient le programme pour sauver les orang-outans à Kalimantan et le bien-être de la population, les éléphants sauvages de Sumatra et le reboisement des déboisés par des palmiers combinés avec 1000 espèces d'autres plantes. Ce modèle aura été fait à Samboja Lestari à Kalimantan par Hasim avec le docteur Willy Smith, le scientifique néerlandais qui est devenu un citoyen de l'Indonésie. À seulement 10 à 14 ans, les forêts à partir des résultats de la déforestation peuvent déjà produire de l'énergie en continu. Ce modèle peut également employer un grand nombre de personnes ayant un revenu 1,5 fois plus élevé que le salaire minimum. Mes amis, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique hebdomadaire, les infos de l'Indonésie, qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Temanggung, Java Central. Plusieurs 32 instruments d'alerte précoce d'avalanche seront installés aux 7 sous-districts en région Temanggung, Java Central. Les 7 sous-districts sont Pring Surat, Kaloran, Kandangan, Gemawang, Wonoboyo, Tretep et Bansari. Le directeur exécutif de l'Agence régionale de la gestion des catastrophes de Temanggung, Agus Sudaryono, a expliqué le mercredi dernier que les instruments sont ceux simples produits par les étudiants de l'Université Gadjah Mada, Yogyakarta, qui donnent le signal de danger par l'intermédiaire des sirènes. Outre le mouvement du sol, cet instrument détecte aussi le potentiel des glissements de terrain, de la chute de pluie, des 20 sous-districts à Temanggung. Le potentiel des glissements de terrain se trouve aux 14 sous-districts. L'installation de tel instrument sera faite pour la première étape aux 7 sous-districts. Encore de Temanggung, Java Central. Les cafés Arabica et Robusta en provenance de la région de Temanggung, Java Central seront exposés dans un événement de Specialty Coffee Association of America à Atlanta, aux États-Unis. Le café Temanggung a passé la sélection et est devenu l'un des produits de café qui a participé à l'exposition, ainsi que d'autres produits de café de 48 pays. Le chef de la division de l'industrie du Bureau de l'industrie du commerce des coopératives et des MPME de Temanggung, Joko Merantau, a déclaré mercredi il y a 5 marques de café locaux des sous-districts de Bulu, Kledung, Temanggung et Gemawang. Selon Kelik, le café de Temanggung a pénétré dans un certain nombre de pays comme la Corée du Sud, le Moyen-Orient et les pays européens. L'expédition se fait par l'intermédiaire des exportateurs de Saratiga et Malang, Java Est. La dernière info vient de Jayapura, Papouasie. Le musée des records mondiaux Muri a déterminé le plus grand noken, soit le sac multifonctionnel noué ou tissé de Papouasie, au monde dans l'activité du 50e anniversaire de la Banque de développement régional de Papouasie à Jayapura le mercredi dernier. Noken qui était fait par 10 artisans de Papouasie à le diamètre de 13,5 mètres carrés. La détermination du plus grand noken au monde est tenue au bureau du gouverneur de la Papouasie. Noken est le sac fabriqué à partir de racines d'arbres et de l'écorce. Noken sert également un conteneur pour stocker les bulletins de vote lors d'une élection tenue dans un certain nombre de régions dans les montagnes centrales de Papouasie. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie, l'édition 17 avril. On va commencer le 17 avril 1960. Le mouvement des étudiants islamiques indonésiens a été créé. Le mouvement des étudiants islamiques indonésiens, ou PMII, est un mouvement étudiant qui vise à réaliser une meilleure Indonésie. Ce mouvement a établi le 17 avril 1960 dans le contexte de la situation politique dans les années 1960 qui oblige les élèves ont pris part à la coloration de la vie politique et sociale en Indonésie. L'établissement de PMII est dirigé par le jeune Nahdlatul Ulama. Parmi les fondateurs étaient Mahbub Junaidi et Subhan Zee, journalistes en tant également un politicien légendaire. Le mouvement des étudiants islamiques indonésiens est né comme une nécessité pour faire face aux défis de l'époque. La mise en place de l'organisation de PMII a commencé par le désir fort des étudiants de Nahdlatul Ulema pour établir une organisation étudiante basée sur le Coran et les hadiths. On chance le 17 avril 1961 le débarquement de la baie de Cochon. Le CIA, Central Intelligence Agency, arme quelques exilés cubains opposés à Fidel Castro et les arcs sur la côte cubaine dans le but de renverser le régime. Les troupes cubaines réagissent aussitôt et repoussent la tentative de débarquement de la baie de Cochon, au nord de Cuba à 500 km des côtes américaines. C'est un important succès pour Fidel Castro qui est arrivé au pouvoir par les armes à la Havane en 1959, se présente comme le meilleur opposant à l'impérialisme américain. De son côté, Kennedy assume les responsabilités d'une telle déroute et n'accordera jamais plus sa confiance à la CIA. On continue le 17 avril 1996, massacre de l'El Dorado de Corajas. Le massacre de l'El Dorado dos Carajás est un incident de tir qui a eu lieu le 17 avril 1996 dans la ville de El Dorado dos Carajás, l'état du Pará, Brésil. La police militaire brésilienne a ouvert le feu sur l'agriculteur qui est en train de manifester. Ce tir a causé de 19 personnes tuées et 60 personnes ont été gravement blessées. Aujourd'hui, alors célèbre comme la Journée internationale des luttes paysannes déclarée par Via Campesina. Via est un mouvement paysan international cliquant sur la coordination des organisations de petits et moyens agriculteurs, les travailleurs agricoles, les femmes rurales et les communautés locales en Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe. Ces amis, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir. L'édition 17 avril. À demain.
La voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique hebdomadaire La mise au point de la semaine et en titre. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prépare le projet pilote de la prison. Le sérieux du gouvernement dans l'amélioration pénitentiaire douteuse en raison de problèmes tels que le trafic de drogue, ce qui donne des privilèges spéciaux à certains détenus, et l'agitation a continué en prison. Dans le même temps, les abus et les violations continuent également à être un certain nombre d'employés peu scrupuleux de la prison, malgré un certain nombre de mesures décisives ont été prises. À cette raison, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme fait la conception de 71 pénitentiaires dispersés dans toute l'Indonésie en tant que projet pilote de prison sans drogue. Pendant 6 mois, la prison va continuer à être et évaluer pour atteindre l'état libre de la drogue. Si le projet réussit, le système développé par chaque prison pilote sera appliqué tout au long de l'Indonésie. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasona Halaoli, a dit récemment à Jakarta que ce projet vise à trouver le système exact de contrôler et de la sécurité aux prisons pour empêcher la distribution des drogues dans la prison. Yasona Laoli va aussi résoudre les autres problèmes dans la prison, comme le manque de l'installation de sécurité. Les réparations sont effectuées en ligne avec l'augmentation de la capacité du budget de l'État. Pour faire face à la surpopulation des prisons, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme redistribuera les prisonniers. Les détenus dans les prisons, dans des conditions très fréquentées, seront déplacés vers une autre prison moins dense. Cependant, au milieu du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, en Turquie, le vice-président Youssef Kala a dit « Jusqu'à présent, le réseau d'anneaux de drogue qui s'opère des prisons est encore le problème sérieux qui doit être résolu. » Selon le directeur général de correction du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Iwayan Dusak, le projet pilote sera construit aux 32 provinces, chacune deux prisons. Pour Jakarta, on va construire 7 prisons. Donc, il y aura 71 projets pilotes de prisons en Indonésie. Chers amis, c'était la mise au point de la semaine.
Ce sont toujours les dernières phrases qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Ce soir, nous vous invitons à faire le voyage de nuit à Monas afin de jouir la beauté de Jakarta en nuit, du sommet de Monas. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de long cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à fr.boi.co.id. Monas, soit le monument national, est le monument mémorial. À hauteur de 132 mètres, étant construit à la mémoire de la résistance et de la lutte du peuple indonésien pour l'indépendance du gouvernement néerlandais. Ce monument a été construit le 17 août 1961 sous l'administration du président Sukarno et il est ouvert au public le 12 juillet 1975. Au sommet de ce monument, il y a une flamme revêtue de feuilles d'or qui symbolise l'esprit de lutte ardente. Le monument national est situé dans le centre de l'espace Medan Merdeka, Jakarta Central. Le monument national est ouvert tous les jours de 8h à 15h. Chaque mois, le lundi de la dernière semaine, le monument national est fermé au public. Le 5 avril 2016, le gouverneur de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, a inauguré le voyage de nuit du Monument National, Monas, car il y a beaucoup de touristes qui veulent jouir du voyage de nuit à Monas. Le tourisme de nuit Monas est ouvert du mardi au dimanche de 19h à 22h. Ici, on peut jouir du panorama de Jakarta, du sommet de Monas en payant le billet 20 000 rupiah par pour l'adulte et 10 000 rupiah pour l'enfant. Pour ceux qui veulent seulement monter jusqu'à la tasse de Monas, le billet est 7 500 rupiah pour l'adulte et 3 500 rupiah pour l'enfant. Thank you. L'heure supplémentaire jusqu'à 22 heures sert aussi pour ceux qui sont dans le jardin à Monas. En outre, on ajoute le nombre de billets. De 8 heures à 14 heures, on vend 1800 billets. De 19 heures à 22 heures, on vend 700 billets. Le gouvernement de Jakarta va préparer de diverses infrastructures, entre autres les toilettes publiques qui sont équipées de la climatisation. Il y a aussi une variété de marchands culinaires qui vendent des aliments au prix de marchands ambulants. Ceci vise à empêcher les visiteurs d'acheter la nourriture et des boissons à l'extérieur du monument. En raison que Monas se situe dans la région du cercle 1, plusieurs 60 agents de sécurité ont été déployés pour maintenir la sécurité de voyage. Chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleur et en titre, le concept de l'industrie verte et continuer d'aimer. Le concept de l'industrie verte, soit l'industrie ayant la conception d'environnement, est continué d'aimer par les entreprises en Indonésie. Ceci peut être vu de l'augmentation du nombre de ceux qui ont reçu la décoration de l'industrie verte. Le chef de la recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie, Haris Munandar, a déclaré que le programme qui s'est fonctionné il y a 6 ans et de plus en plus de demandes d'année en année. Sur la base des données du ministère de l'Industrie, en 2010, les sociétés bénéficiaires des prix de l'industrie verte totalisent 68 entreprises, malgré une baisse en 2011 à 37 entreprises, mais le chiffre est passé à 114 entreprises en 2015. Cette année, le ministère de l'Industrie a développé 4 normes de l'industrie verte, suivant les 8 normes qui ont été appliquées. Les normes de l'industrie verte sont entre autres pour le ciment Portland, carreaux de céramique, de lait en poudre et de poudrette de caoutchouc. Selon Haris, le standard de l'industrie verte en 2016 est principalement pour le secteur de la fabrication qui ont été préparés pour suivre le développement des questions environnementales internationales, y compris les divers accords. Haris Munandar a dit, dans la première étape des normes de l'industrie verte seront faites en volontaire, dans lequel le gouvernement fournira des facilités aux entreprises par l'intermédiaire de la motivation fiscale et non fiscale. « Le ministère de l'industrie est optimiste. La réalisation de l'industrie verte pour tous les secteurs en Indonésie pourrait être accélérée compte tenu de la prise de conscience croissante de l'efficacité de la production et les producteurs préoccupations pour l'environnement. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Sharif Hidayat, a dit « L'industrie nationale a commencé à se déplacer vers le système de production plus intégré, efficace et durable. Le principe de l'efficacité de la production et l'augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles est appelé l'industrie verte. » Selon Sharif, à présent, émerge une tendance parmi les entreprises industrielles pour améliorer la performance des entreprises dans les domaines environnemental et social. Le sérieux du ministère de l'Industrie vis-à-vis de l'industrie verte est stipulé dans la loi numéro 3 de l'an 2014 sur l'industrie, en particulier dans les chapitres 77 à 83. Le ministère de l'Industrie organise régulièrement des prix de l'industrie verte comme un signe de reconnaissance pour les efforts que l'application des principes de l'industrie verte dans le processus de production. Sharif a ajouté que ce prix peut être un moyen d'introduire la politique industrielle verte aux acteurs de l'industrie. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec le magazine musical indonésien. Qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous. Cette fois, nous présentons une chanteuse de dangdut indonésien, Abim Ngesti. Nous allons écouter une chanson chantée Abim Ngesti intitulée Pangeran Dangdut ou Le Prince Dangdut. Abim Ngesti est l'un des chanteurs d'andut indonésien qui était célèbre dans les années 90. Il est né à 30 octobre 1978 dans la ville de Kudus. Sa première représentation comme la petite rocker qui est pleine de confiance dans clips vidéo avec une chanson Le Prince de Dangdut. Cette chanson qui est créée par Awang Raza a lui fait plus célèbre. En 1990, il a reçu le prix de HDX pour la catégorie l'album pour enfants le plus vendu. Jajami, écoutons donc maintenant une chanson de Abim Ngesti suivante intitulée Bukan Tanda Jasa.
Terima kasih.
En 1991, Abim Ngestia a sorti un album intitulé C'est dans Dut. En 1992, il a publié l'album en duo avec Eri Susan intitulé Gempa ou Sisme et Inizaman Uang, soit L'ère de l'argent. Pour une carrière solo, il a sorti un album Astaghfirullah en 1993. Abim Ngestia a publié l'album Slow Rock, Je tiens le monde. Cet album était très populaire dans le marché et montre également que Abim Ngestia peut exister aussi dans la musique Slow Rock. En 1994, Abim Ngestia a sorti l'album dangdut romantique intitulé Sonia. Au début de 1995, il a sorti l'album Gadis Balikou. Cet album est une nouvelle innovation dans la musique dangdut, où Abim a collaboré le dangdut avec rap et ethnis sans supprimer les caractéristiques de dangdut, un tambour et une flûte. Cet album est meilleur vendu dans la même année. Vers le mois de septembre 1995, il a sorti son dernier album intitulé Dashat. Parce que le 19 août 1995, il est mort dans un accident avec sa mère, sa soeur et son cousin. Ses amis, voici les deux dernières chansons intitulées Banjir ou Inondation et Jarum Narcotica ou La Gueule de Stupéfiant. Merci à tous et au revoir.
Banjir, banjir,
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
menyesal diriku ini. Kian sedih berlumuran dosa. Aku mohon ampunanmu, ya Allah. Jalan sesat yang telah kulalui, sadar mengakui segala dosa, hanya berserah padamu. Masih bernyawa akan menjalankan perintahmu dengan segenap jiwa, tapi banyak godaan hingga ku terlupa. Betapa menyesal diriku ini, kian sedih berlumuran dosa. Aku mohon ampunanmu, ya Allah.
Amis, il y en a des différentes tous les jours. Alors, n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie. Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150. 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box
1157 Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.